Merci beaucoup, maître. Bonjour. Alors, sous ce titre, peut-être un vaste programme que je vais essayer de restreindre, de cibler, notamment sur la période antérieure à 1932. Alors, bon, récemment, la Pierre Assouline avait remarqué que, en rendant compte de la biographie de Malaparte par Maurizio Serra, que nous sommes si puissamment persuadés que le moi social n'avait rien à voir avec le moi créateur, que nous avons longtemps fait l'économie de certaines vies, dès lors que l'œuvre paraissait se suffire à elle-même, tant elle nous en imposait. Je pense que pendant très longtemps, ça a été le cas pour Céline. Et malgré donc, les journalistes, les critiques, qui souvent essayaient de dévoiler les clés de son identité, il a répondu très souvent avec parcimonie et non sans brouiller les pistes, comme Maître Gibault l'a rappelé. Alors, biographie de Céline, les travaux biographiques, je retiendrai surtout ceux qui ont essayé de cerner la transposition de la vie de Céline dans son œuvre. Et je crois qu'un des précurseurs auxquels j'aimerais rendre hommage, c'est Éric Mazet, qui, dès 1971, ouvrait la voie de l'étude des données de l'expérience transposées dans les romans à travers un mémoire universitaire qui n'est pas diffusé malheureusement, La déformation du réel dans trois œuvres de Céline, les trois premiers romans, tandis que Jacques Boudillet et également Jean-Pierre Dauphin ont réuni à peu près dans le même temps, à la même époque, la somme documentaire qui va fonder l'album Céline, l'album Pléiade, et qui vont également permettre d'exposer à Lausanne un grand ensemble de documents en 1977. Alors évidemment, les trois masses de granit sur lesquelles aucune étude célinienne ne peut se dispenser de travailler et de se reporter, c'est les trois forts volumes du Céline de Maître Gibault, paru entre 77 et 85, qui ont apporté une masse de matériaux encore, j'allais dire, presque inédits de sa collection, sur lesquels nous portons toujours une grande attention et dans les commentaires et dans le travail. Alors, ce travail de la transposition, c'est une approche peut-être d'abord littéraire qui l'a guidée. Alors, je ne vais pas revenir sur les idées de Sainte-Beuve, selon lequel l'artiste et l'homme ne faisaient qu'un, que l'œuvre était le reflet de sa vie, de ses traumatismes, etc. Mais finalement, dans les études littéraires sur Céline, cette idée donc de coïncidence entre l'homme et l'œuvre a été impulsée à un moment où la critique était surtout axée sur le style, sur la critique formaliste et l'intérêt pour le processus créateur. Et je crois que le chercheur à qui on est également énormément redevable, qui a fait la jonction entre ces données, outre Maître Gibault dans sa biographie, c'est Henri Godard, dans la présentation des romans de la Pléiade, qui, dès 1981, lorsqu'il reprend le premier volume, Voyage et mort à crédit, va faire la synthèse avec toutes les recherches érudiques et biographiques. Et évidemment, on va d'abord puiser dans les deux premiers volumes de Maître Gibault pour faire ces liens. Alors, c'est sa présentation et essentiellement l'annotation qui rendent compte de cette démarche. Et ensuite, les choses sont allées très vite. Il y a eu une période faste, puisque l'opprobre qui était attaché à Céline n'a pas, n'engageait pas vraiment à l'exégèse biographique, mais il y a eu quand même une compréhension de l'œuvre qui a légitimé à l'université des recherches sur les autres traces de la vie de Céline en France et à travers le monde. Alors, depuis 1985, les études biographiques consacrées à Céline se sont surtout développées par opportunité. La découverte de correspondances inédites, la multiplication des témoignages recueillis, l'accès à de nouvelles sources d'archives privées et publiques ont permis d'abord de préciser des aspects de la période antérieure à 1932, sur laquelle je vais insister, donc à l'apparition de Voyage. Alors, cette période de formation, elle permet finalement, elle a intérêt de montrer les différents aspects du savoir biographique et de ses usages dans les études céliniennes, ce que je vais essayer d'aborder à travers deux grands aspects. Alors, auparavant, peut-être, je vais rappeler les grandes expériences qu'a traversées Louis Destouches, de sa naissance à 1932, vous remettre un petit peu le cadre. Donc, la vie familiale, de Courbevoie, Rampe-du-Pont, jusqu'au passage Choiseul, jusqu'en 1907, des séjours à l'étranger ponctuels en Allemagne et en Angleterre 1907-1908, hein, dont le volume de lettres à la Pléiade rend compte magnifiquement. On les a pour la première fois, donc in extenso. L'apprentissage à Paris et à Nice, 1910-1912, l'armée et la guerre, 3 mois de front, les blessures, la convalescence, donc de Rambouillet hein, jusqu'à l'hôpital d'Hazebrouck, hein, 1912-1915. C'est le moment de la parution, enfin de, pas de la parution, mais de l'écriture hein, des carnets du cuirassier des Touches hein, pendant le service militaire en 13. Puis ensuite, donc l'escapade à Londres, entre le bureau des passeports et puis les promenoirs des théâtres de Londres. Le premier mariage, j'y reviendrai, 1915-1916. La fuite au fin fond de l'Afrique, 1916-1917, avec un texte demeuré inédit du vivant de Céline, donc « Des vagues », qui est une transposition de son voyage. J'en reparlerai, j'en dirai peut-être un petit mot. Le retour à Paris au service d'une revue de vulgarisation scientifique, un petit journal d'inventeur, Eureka. L'engagement dans une mission de lutte pour la tuberculose, alors dans l'Eure-et-Loire et ensuite en Bretagne, donc de fin 1917 à 1919. Et enfin, donc, bon, tout un cycle, une tentative d'intégration à la vie bourgeoise rennaise, un second mariage avec Edith Follet, les études de médecine jusqu'en 1924, les premiers textes scientifiques, médicaux, hein, qui s'accumulent de 1922 à 1924, des séjours à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, à nouveau, le médecin donc, au service de la commission d'hygiène de la SDN jusqu'en 1927, et donc l'installation comme médecin au dispensaire de Clichy, puis l'emménagement donc, à Montmartre hein, de 28 à 32. Bon, voilà déjà hein, pour ce cadre chronologique et cette multiplicité d'essais, de faux départs, de changements, de cap, que les biographes ont évidemment toujours des relevés, dégagés, hein, parfois à rebours. Quelques constantes, la curiosité, le désir de faire de la recherche, de guérir, l'ambition de se faire connaître par des recherches scientifiques ou médicales, des tentatives d'écriture, j'en ai cité 2 ou 3, et bien sûr des ambitions littéraires. Alors, la naissance de Céline comme médecin et écrivain, à l'issue de ce chaos, hein, paraît presque apaisante hein, quand on suit un petit peu le déroulement de cette existence. Et évidemment, donc, le premier aspect sur le savoir biographique, c'est l'usage qu'en fait l'histoire littéraire. Alors, premier point que j'aimerais aborder. Alors, sur la période antérieure à 32, qu'est-ce qui intéresse globalement les biographes hein? Donc, la naissance de la vocation de médecin. Secondairement, bon, évidemment, la naissance de la vocation littéraire, et secondairement, la difficile question aussi des racines du racisme et de l'antisémitisme hein, qui se développera dans les pamphlets. Donc, c'est les connaissances acquises, hein, notamment sur l'entourage de Céline, depuis la biographie de Maître Gibault, bon, permettent en partie de les reconsidérer, en tout cas pour les deux premières questions. Alors, à la fin de sa vie, Céline invoquait beaucoup dans ses interviews son tempérament de soigneur. Bon, pour expliquer sa vocation. Mais bon, il esquivait quand même globalement les confidences biographiques à ce sujet. Alors, les praticiens modèles de Céline, quels sont-ils? Alors, en lisant Mort à crédit, on voit bien apparaître à un moment dans le passage des Bérésina le docteur Capron, appelé au chevet de Ferdinand, bon, qui, une fois qu'on a épuisé toutes les ressources de la méthode Raspail, hein, la médecine familiale. Bon, ces vrais maîtres en médecine, on les connaît, et puis on arrive maintenant à bien les cerner. Bon, c'est évidemment le professeur Follet, hein, que le jeune propagandiste va s'attacher lors de la mission Rockefeller en 1918 à Rennes, dont il va épouser la fille. Bon, voilà un beau-père bon, qui est relativement intéressé, mais c'est lui hein, qui va véritablement le lancer dans ses études de médecine. Alors, dans une voie qui est déjà défrichée, on le sait, grâce à la correspondance, 2 ans auparavant, par des lectures sur la médecine tropicale, lorsqu'il est au beau milieu là, de sa plantation du Cameroun, à Dipicard. Et puis, ben, un certain nombre d'expériences médicales, lui-même, et notamment celle de la guerre. Alors, il y a un passage sur lequel, malheureusement, nous ne savons pas encore grand-chose, et là, il y a des vocations de chercheurs, sans doute, à approfondir. C'est l'épisode londonien où il aurait connu un médecin juif, hein, dont nous ne connaissons pas l'identité, qui a transposé dans Guignol's Band sous le nom du docteur Clodovitz. Bon, en dehors de ça, on a un certain nombre de données biographiques. Alors, à partir de sa blessure, alors peut-être rappeler un mot sur la blessure, elle aurait eu lieu donc sur le front des Flandres à Paul Capel le 25 octobre 1914. Donc il y a l'illustré national, je pense que vous avez tous en mémoire cette image où on voit le cuirassier des touches flamboyant, sabre en main, donc qui est sur son cheval. Alors visiblement à cette époque-là on était déjà démonté, donc ça serait plutôt lors d'une mission de liaison à pied qu'il aurait été blessé. Alors blessure donc par balle, qui avait été précédée aussi par une commotion provoquée par un obus. Et bon, curieusement aussi, on a la mention d'un coup de sabre sur la matricule militaire, mais qui semblerait bon, que ce soit une vision un peu rétrospective et interprétative de la blessure, une fois qu'elle a été soignée lorsqu'il a voulu se faire réformer à Londres par le consulat. Alors, cette expérience traumatisante l'a amené à fréquenter un certain nombre de figures médicales, et puis des plus caricaturales finalement. Le médecin qui va lui traiter immédiatement à Hazebrouck, le docteur Gabriel Selnar, bon, c'est un médecin généraliste réquisitionné, qui extrait la balle et qui ne lui apporte pas d'autres soins. Alors, il y a une figure médicale, j'aimerais illustrer mon propos par l'image, qui va le marquer... En particulier, donc à gauche, c'est le docteur Adolphe Jalaguyer, qui est un grand chirurgien, qui a notamment innové certaines méthodes dans le domaine du traitement de l'appendicite, qui va le recevoir au Val-de-Grâce. Et donc au Val-de-Grâce, Céline de Féhéry va se rappeler les soins de Jalaguyer. Il y a aussi des traces dans la correspondance avec Albert Milon, qu'il rencontre au Val-de-Grâce. Donc une figure médicale par sa dextérité, son attention par rapport au patient hein, qui marque profondément Céline. Alors à côté de cela, bon, il va rencontrer aussi des grands maîtres. Hein, le grand maître en chirurgie, c'est Antonin Gosset à cette époque-là, hein, le médecin du monde à Paris, qui va suturer le nerf radial qui a été endommagé à l'hôpital Paul Brousse. C'est aussi à Paul Brousse donc, que Céline va faire la connaissance de Gustave Roussy, hein, qui est finalement une grande figure médicale de la Troisième République, qui finira recteur de la Sorbonne à la Libération, et qui va servir de modèle, hein, on le sait, au docteur Bestombe du voyage, hein, qui inflige à Bardamu des doses d'éthique patriotique. Bon, voilà pour ces premières figures médicales qui ont entouré peut-être la naissance de cette vocation. Alors, la guerre a d'autant plus d'importance que les premières recherches médicales de Céline touchent un point sensible, c'est les fameux acouphènes, hein, les bourdonnements d'oreilles, qu'il a contracté suite à cette commotion, qu'il va essayer et tenter de soulager par l'invention d'un cornet anti-acouphène. En fait, il s'agit d'émettre un contre-bruit. Alors, on n'a pas le plan et l'image de ce cornet, mais il a fait une publication qui a été retrouvée récemment, en 1922, au tout début de ses études de médecine, sur ce cornet qui est digne d'une invention d'Henri de Graffini. Et est-ce que c'est efficace? On ne sait pas trop. Il n'y a pas de commentaires critiques hein, dans l'Union pharmaceutique qui a publié ce petit texte de Louis Destouches, mais c'est la première trace d'écrit médical avant même la thèse hein, sur Semmelweis, et évidemment intimement lié à la guerre. Deuxième aspect, il s'agit évidemment de la naissance de Céline Écrivain, que les biographes parfois, à certains égards, aborde comme un surgissement hein, lors de la parution de Voyage, son succès éclatant, etc. Bon, en fait, c'est vrai qu'avec du recul, la naissance de rien ex nihilo de Céline Écrivain, c'est une idée sur laquelle on peut revenir et discuter longuement. Bon, il y a eu quand même très tôt des essais d'écriture. Et Céline va avoir aussi le souci, après-guerre, de rattacher sa vocation à des figures ancestrales, notamment, je pense à gauche, à Auguste Destouches, hein, le professeur de rhétorique, le grand-père du Havre, qui avait publié donc un roman sentimental et maritime dans le journal de Rennes qui s'appelait « Une dette de cœur ». Bon, il y a cette figure titulaire. Bon, est-ce que ça a vraiment eu un impact sur sa vocation? Est-ce qu'il a, il a bien connu dans sa jeunesse les écrits de ce grand-père? Il les redécouvre en tout cas à l'époque de Guignol's Bande. Vous vous rappelez sans doute de ce prologue sur le grand-père. Alors, à l'époque du passage Choiseul, bon, il est lecteur de Je suis tout, hein, et sa grand-mère lui fournit des journaux enfantins. Bon. Mais il fréquente aussi, il longe au passage Choiseul les étalages des libraires. Alors il y a leur voisin est libraire, Rouquette, un petit peu plus loin, donc il y a quand même la librairie, le libraire-éditeur Alphonse Lemaire. Bon, tout ça, c'est une ambiance aussi dans laquelle va s'inscrire cette vocation. Et puis il y a des figures, donc ici à droite, par exemple Édouard Bénédictus, hein, qui a été redécouvert notamment par André Derval, qui serait un petit peu le père de l'oncle de Mort à Crédit, l'oncle Édouard, en tout cas il lui emprunte son prénom, mais qui est une figure rencontrée peut-être à Londres, alors là on n'est pas très, très très sûr, il est au moins témoin du premier mariage de Céline à Londres en 1916, et chimiste, il va travailler ensuite comme professeur aux arts décoratifs, il est aussi écrivain, et en tout cas, il participe à cette introduction à la revue Eureka, que patronne également Henri de Graffigny. Donc il y a déjà une inscription à travers cette figure peut-être de Bénédictus. Alors l'autre figure, c'est évidemment, à gauche, un portrait d'Henri de Graffigny, donc le modèle de Courcial, Roger Marin, Courcial des Péraires, de Mort à Crédit, à gauche, donc qui est un polygraphe, alors là, dans tous les domaines, auteur de pièces de théâtre de Guignol, de romans scientifiques, évidemment de multiples publications techniques, plus de 200 titres, qui l'accompagne donc dans ses débuts à Eureka, et également ensuite dans la mission Rockefeller en Bretagne, avec cette citation de Mort à Crédit, qu'on peut attribuer donc à Henri de Graffigny. Céline écrit « J'avais appris avec Courcial à rédiger genre officiel ». Bon, peut-être donc une influence aussi dans ses débuts d'écriture, en tout cas, de Graffigny. Alors l'autre mentor dans ce domaine-là, c'est, figure de droite, le docteur Athanase Follet, donc le fameux beau-père, qui est poète à 16 heures, poésie sans grand succès, en tout cas, elle paraît uniquement dans la presse rennaise et on s'en moque un peu. En revanche, dans cette famille Follet de Rennes, il y a une culture littéraire, comme chez beaucoup de médecins à cette époque-là. La mère publie des romans pour la jeunesse. Le frère, Marin Follet, d'ailleurs, ce prénom Marin va être pris par Céline pour Courcial. Le frère d'Athanase Follet publie également des recueils de poèmes à Paris en 1900. Et le docteur, de temps en temps, des velléités qu'il va faire partager à son gendre. Il va notamment diriger une revue médicale, mais qui a aussi une chronique littéraire et dramatique, la revue d'Armorique, qu'il publie pendant 2-3 ans à Rennes, avant la guerre de 14. Alors, c'est lui qui ouvre sa bibliothèque généreusement à Louis, on sait qu'il devise à table. Maître Gibault a rapporté tous ses souvenirs littéraires rattachés à la figure de Follet. Alors, le premier texte, c'est publié, c'est la thèse de médecine Philippe Ignace Semmelweis, qui est inspirée, Brindeau, le directeur de thèse, peut-être, mais essentiellement, on a un petit témoignage de Céline à ce sujet en 1934 pour le Phare médical par un autre maître rennais, le docteur Félix Véron, qui était professeur d'obstétrique à l'école de pratique de médecine à Rennes. Alors, en dehors de ces interférences, il y a une figure peut-être qui a été très longtemps ignorée ou négligée, parce qu'on avait très peu de traces. C'est donc Francis Varède, qui est le seul homme de lettres, à ma connaissance, de sa génération, puisqu'il est né en 1894 à Paris. Assez méconnu, qui a reçu quand même la fameuse thèse Semmelweis avec cet envoi que je vous rappelle à mon frère Francis que la vie m'a donné, Louis. Nous avons également un autre témoignage de Céline au sujet de cet homme de lettres et ami, une des premières lettres à Pierre Monnier de l'exil danois, où Céline lui écrit « Ah, j'aimerais tant récupérer les articles et les écrits de ce cher Francis, je pense à lui chaque jour ». Donc une figure auquel il était très attaché. Alors, Quelques recherches en archives ont permis un petit peu d'établir l'itinéraire de Francis Varette, qui était né René Thiel, fils d'un employé du bureau de la préfecture de la Seine, simple bachelier, qui a fait ses débuts comme employé au ministère du Travail, avant donc 1914. Alors, il nourrit une grande passion notamment pour le théâtre. On le voit jouer des sketchs dans le Figaro de l'époque. On a des mentions donc, d'intervention de Francis Varède à cette époque-là, avec un autre homme de lettres qui, lui, a percé et qui va être membre du jury du prix Théophas Renaudot, c'est Gaston Picard. Et Varède et Picard vont rédiger des comédies et dès la guerre, en 15-16, hein, vont figurer sur la scène parisienne. Bon, Varède est aussi l'auteur d'un journal Une feuille des tranchées, boum, voilà, puisqu'il va être récupéré lors d'un conseil de révision pour aller sur le front en Champagne. Il va d'ailleurs y contracter la tuberculose en 1916. Alors, autre figure littéraire attachée à Varède, c'est donc la fille d'Annie de Penn, Germaine Battendier, mieux connue sous son nom de plume Germaine Beaumont, qu'il va épouser sur le front en 1916 à Péronne. Donc Varède et Germaine Beaumont sont les protégés de Colette de Jouvenel, hein, qui va entourer d'une grande affection Germaine Beaumont, et introduire Varède auprès d'Henri de Jouvenel, bien sûr, et du Matin, et également de Gustave Théry. Donc il va être propulsé dans les milieux du journalisme après avoir quitté le front. Et percé non seulement donc dans l'illustré du Matin, Le Pays de France, mais également dans le journal de Paul Lévy en 18, hein, aux Écoutes, ou encore dans les journaux satiriques comme le Rire Rouge. C'est quelqu'un qui fréquente aussi les milieux alors du théâtre, évidemment du cinéma, les deux sont liés. Je pense à Musidora, hein, dont Céline parle un petit peu dans son œuvre, qui va lui donner d'ailleurs à Varède un rôle secondaire dans un court métrage inspiré de la série Vampire de Louis Feuillade, qui s'appelle Le Maillot Noir. Alors, le contact avec Céline, avec Louis Destouches, intervient après-guerre en 1920. On le sait, on a un témoignage de Germaine Constant, une amie proche, qui présente Varède à Destouches à Rennes, à l'époque des débuts de ses études. À ce moment-là, il est pour le PCN. Alors, le journaliste et étudiant vont vite se trouver quand même des points communs. Alors, Varède, étant tuberculeux, a sans doute été à Rennes pour voir le docteur Follet, en tout cas c'est une hypothèse que je formule, qui était spécialisé dans ces questions-là et dans le traitement de la tuberculose. Louis Destouches a lui-même une grande expérience dans ce domaine-là, puisqu'il a fait quand même 2 ans de mission en Bretagne sur l'hygiène et la tuberculose. En tout cas, bon, il se retrouve à Paris et notamment donc à Montmartre, puisque Varède va être nommé secrétaire général de la mairie de Montmartre du 18e. Et jusqu'en 1924, ils passent leurs vacances ensemble. Nous avons 2-3 lettres qui en témoignent, en 21, 22, à Pau et dans les Landes. Et puis ensuite, lorsque Louis Destouches sera nommé à Genève, dans les Alpes. Donc quelques témoignages annexes. Et c'est évidemment à partir de là qu'une amitié importante se noue. Sur leur correspondance, malheureusement, elle est perdue. On ne dispose pas d'échanges. On a une lettre co-signée, Louis Destouches et Varède, adressée à un hôte. En tout cas, donc à l'époque de la thèse, c'est Varède qui accompagne à l'école de médecine Louis Destouches pour le dépôt de la thèse et témoigner de ce dépôt et signer sur le registre. Ils sont donc très très liés dans cette période-là. Bon, malheureusement, Varède va disparaître assez vite. Hein, en 1927, hein, il succombe à la tuberculose et il va laisser donc ce souvenir, cet homme de lettres hein, oublié. À Céline, qui a sans doute quand même entouré ses débuts littéraires, parce que je vous rappelle que dans ces années 26-27, vous avez déjà donc la rédaction de pièces, hein, Progrès, qui a été intitulé auparavant Périclès, hein, qui a mis au jour Jean-Pierre Dauphin, et également de l'Église, sur lequel je vais revenir. Bon, dernier aspect également abordé par les biographes du point de vue de l'histoire littéraire sur cette période, c'est évidemment la recherche des racines du racisme et de l'antisémitisme célinien. Alors, Jacqueline Morand, Philippe Almeras hein, ont tenté, dans plusieurs ouvrages, de cerner ces manifestations les plus anciennes. Bon, les traces d'antisémitisme littéraire, c'est l'Église, L'Église, donc, qui est inspirée, je me rappelle, du séjour, enfin du séjour, du travail à la SDN, et où sont mis en scène des personnages juifs caricaturaux, hein, Judenzweck et Mosaïque, à une époque, hein, bon, il faut quand même le rappeler, hein, qui n'est pas si éloignée finalement de l'affaire Dreyfus, et même si elle ne connaît pas encore de persécution. Alors l'influence du milieu familial, et en particulier du père, a souvent été reprise par Céline pour expliquer l'origine, l'ancrage de cet antisémitisme. Bon, dans les faits, on voit dans la famille des Touches et Guillou des attaches bonapartistes. Bon, du nationalisme xénophobe, c'est moins apparent. En tout cas, bon, Céline, notamment dans les entretiens à Robert Poulet, a rappelé donc ce penchant paternel aux diatribes contre les Juifs et les Jésuites qui ruine le petit commerce, hein, dixit Fernand Destouches, le père de Céline. Bon, on cherchera en vain d'autres figures antisémites dans son entourage à cette époque-là. Bon, le docteur Follet était vraiment radicalement de l'autre bord. Il appartient à la bourgeoisie radicale socialiste. Il était l'intime ami du maire de Rennes, Jean Janvier. Il était lié notamment à d'autres professeurs de l'université de Rennes, comme Georges Dautin, hein, celtisan, et qui a été le compagnon de Victor Bache, le président de la Ligue des droits de l'homme, dans le combat Dreyfusard. Et donc, on a après dans la correspondance d'autres éléments. Je pense notamment aux lettres à Simone Ceinture, 1916, hein, comme l'a rappelé Maître Gibaud dans sa biographie, où il y a cette longue citation d'un éditorial antisémite d'Urbain Goyer, qui est rapporté, mais sans commentaire. Et puis une autre lettre à Garcin, du 15 octobre 1930, hein, au sujet d'un confrère juif de Londres, peut-être le modèle de Clodovitz. « Il faut toujours suivre les Juifs, ce sont des guides, ils sont aux commandes partout. » Dans les relations juives antérieures, oui, je vais être ménagé de mes mots. Des relations juives, bon, vous avez outre Édouard Bénédictus, hein, Ludwig Rachmann, le patron de la SDN, dont vous avez le portrait, bon, qui avait une affection, en tout cas Céline avait une affection filiale, hein, envers lui. Vous avez également Grégory Choc. Alors là, les relations sont beaucoup plus conflictuelles. Hein. Lorsque Céline arrive au dispensaire de Clichy, bon, il n'admet pas la nomination donc, de ce médecin originaire de Lituanie, juif, à la tête du dispensaire. Et ça va faire l'objet de conflits, hein, jusqu'à son éviction. Bon, à côté de ça, on a aussi sur la péniche d'Henri Mahé, la Malamoa, on a aussi donc, Céline qui se mêle donc, à des compagnons juifs comme Georges Bloch, hein, sa jeune épouse, avec lesquels il essaiera de renouer en 1947. Bon, voilà, donc on le voit avant l'apparition de l'Église, qui est vraiment la première manifestation de l'antisémitisme célinien, même si ça ne se pose pas dans les mêmes termes que pour les pamphlets, bon, à vrai dire, il n'y a pas énormément de linéaments. Alors, sur l'aspect maintenant, je vais peut-être vraiment me résumer. L'aspect donc de la transposition de l'œuvre, bon, les recherches biographiques ont vraiment abondé. C'est le cas donc de la découverte par Pierre Lenné en 85, hein, de ce modèle probable de Bardamu qui est donc Marcel Lafaille, connu aussi dans les lettres sous le nom de Paul Farge, qui a suivi un itinéraire parallèle à Céline, l'Afrique, l'Amérique, et qui a pu inspirer l'œuvre. Une découverte importante. C'est le cas. Je vais un petit peu vite. C'est le cas également donc, d'autres recherches. Je pense aux recherches de Roland Griot sur l'Afrique, qui ont énormément donc, alimenté aussi cette ambiance camerounaise et nous ont permis de retrouver des modèles, comme le modèle du sergent El Cid ou du gouverneur. Bon, Éric Mazet a beaucoup travaillé sur l'entourage d'Henri Mahé. Il a identifié beaucoup de modèles. Je pense également aux travaux d'Alfred Juillan, hein, sur... sa biographie définitive d'Elizabeth Craig, la danseuse américaine avec laquelle Céline a vécu et qui est dédicataire du voyage. Et puis, des figures plus fugitives, et c'est là le terrain de recherche actuel, je pense, qui mériterait d'être encore développé, notamment dans les figures de fugitives de féerie, Janine, qui est aussi un personnage de l'Église. Donc le modèle, c'est Suzanne Leboux, la première épouse, hein, dont l'acte de mariage avait été retrouvé et publié par Jacqueline Morand, et dont on a retrouvé récemment donc, le testament et l'itinéraire, puisqu'elle est décédée en 1922. Elle faisait du commerce d'œuvres d'art, mais c'était plutôt la couverture. Elle tenait parallèlement donc un petit hôtel de passe à Manchester Street, à Londres. Bien. Donc je vais conclure. Donc la recherche stalinienne a encore beaucoup à espérer des dépouillements et des fonds d'archives publics et privés, à mon avis, et notamment aussi de la presse d'époque. Beaucoup à prendre des milliers de pages de lettres qui ne manqueront pas d'être découvertes dans les années à venir. Bon, la part d'ombre, elle s'étend encore à de nombreuses périodes. Bon, la période de Londres, évidemment. Il y a encore quand même beaucoup de trous dans la période de 1920-1932, dans l'exercice de la médecine à Clichy. Et puis, je pense que les relations épisodiques, les rencontres, les lectures des années 30 et 50 hein, vont aussi nous amener à de nouvelles découvertes hein, dans les massifs de correspondance à découvrir. Bon, sur l'occupation, un mot quand même, les liasses d'archives, hein, elles s'ouvrent. Hein, nous arrivons maintenant au délai de communicabilité. Il y a encore un gros travail à faire de dépouillement dans ce domaine qui devrait alimenter aussi ce dossier-là. La période d'exil hein, a aussi son lot d'inédits. Bon, il y a encore les années de Meudon aussi dont il faudrait rétablir la chronologie précise. On n'en a qu'une poignée de lettres, hein, finalement. En un mot, je pense que sans se soucier des polémiques, il faut poursuivre le voyage. Je vous remercie de votre attention.
Alors, je remercie Gaël Richard d'abord parce qu'il finit par un message d'espoir. Il y a encore du travail pour les chercheurs. Hein. Nous n'avons pas fini. Et puis, je le remercie d'avoir mis en, comme ça, présenté un certain nombre de portraits, dont le plus important me paraît celui de Courcial des Perrères, enfin celui qui va devenir, dans mon recrédit, Courcial des Perrères, parce qu'effectivement, c'est un personnage réel. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Personnage réel qui va prendre une place considérable dans l'œuvre, puisque c'est le personnage central de Mora Crédit, un des personnages principaux de Mora Crédit. Je vous disais tout à l'heure que dans l'œuvre, tout était vrai, tout était vrai. C'est vrai, Raoul Marquis, il s'appelait Raoul Marquis, va devenir Courcial des Perrères. Céline l'a connu, c'est un personnage complètement fantastique, complètement mythomane, complètement fou par certains côtés, et complètement génial par bien d'autres. Il s'appelait Raoul Marquis et il était né à Graffigny. Alors naturellement, dans les bottins mondains de l'époque, il va dire qu'il s'appelle Marquis de Graffigny, évidemment. Il est né à Graffigny et il s'appelle Marquis.
C'est inscrit sur sa tombe à Septeuil.
Oui, tombe dont la société d'études céliniennes, que la société d'études céliniennes va bientôt restaurer, car j'en suis le propriétaire. C'était une concession trentenaire et je l'ai transformée en concession perpétuelle. Alors, Henri de Graffigny est un personnage extraordinaire. Et évidemment, quand on lit Mora Crédit, on dit ça, c'est Céline qui l'a inventé, quand il met des fils électriques sous terre pour accélérer la culture de la pomme de terre. Eh bien, je peux vous dire que j'ai chez moi, j'aurais dû l'apporter, un livre d'Henri de Graffigny dans lequel il explique comment, en mettant des fils électriques dans sous terre, on arrive effectivement à améliorer, on va avoir des pommes de terre de plus en plus grosses, énormes, et augmenter la rentabilité de l'exploitation. Madame Céline, qui a rendu visite, non pas à Madame de Graffigny, hein, sur place, m'a dit qu'elle lui avait montré les restes de fils électriques dans un champ, car Henri de Graffigny, effectivement, enfin Raoul Marquis ou Courcial des Perrères, je ne sais plus comment l'appeler, eh bien, avait effectivement expérimenté cette méthode pour lui-même. Alors, je vais donner maintenant la parole à Isabelle Blondiot, que je connais depuis très longtemps, qui est membre de la SEC depuis très longtemps et qui joue un rôle important puisqu'elle est membre du bureau, elle est même secrétaire du bureau de la SEC. Alors elle a cette particularité d'être trois fois docteur. Moi qui ne suis docteur en rien, ce sont des titres qui m'impressionnent beaucoup. Vous êtes d'abord docteur en médecine et spécialisé en psychiatrie. Vous êtes même psychiatre des hôpitaux de Paris. En 1985, vous avez écrit votre thèse, dont je lis le titre « Conditions du recours à la psychanalyse pour l'interprétation des textes littéraires, prolégomène à l'examen du cas d'un médecin écrivain, le docteur Louis Destouches ». Et puis, vous êtes docteur en lettres en littérature française et en littérature comparée. Et vous avez publié votre thèse, Louis-Ferdinand Céline et la chose psychiatrique. Puis vous avez écrit également Céline et l'écriture psychotique. Et vous avez publié enfin un volume à la Société d'études céliniennes, puisque nous sommes également éditeurs, qui s'appelle Portrait de l'artiste en psychiatrie, publication réalisée en 2004. Et puis vous avez...
Portrait de l'artiste en psychiatre.
En psychiatre, pardon. Portrait de l'artiste en psychiatre, oui, effectivement, c'est bien ce que j'avais noté, mais j'ai dit autre chose. Et puis vous avez un troisième doctorat, vous êtes docteur en philosophie, et votre thèse avait pour titre « Pour une étude de la parole en psychiatrie », je ne me suis pas trompé.
Une éthique. C'est une thèse d'éthique, donc c'est pour une éthique de la parole en psychiatrie.
Parfait. Eh bien, alors voilà, vous avez rectifié toutes mes erreurs et vous avez la parole sur le sujet suivant, Céline et la médecine.
Donc, vous aurez compris que je m'intéresse plutôt au langage, au discours, à ces accidents de parcours, puisque j'exerce aussi comme analyste, et que c'est avec cette oreille-là et ce regard-là que je me suis intéressée aux études céliniennes. Alors, l'une des particularités de Céline, on l'a dit, c'est de n'avoir jamais renoncé à la pratique médicale, qui au fil des années s'est de plus en plus orientée vers le soin, peaufinant le portrait biface d'un médecin des pauvres, écrivain clochardisé. Il n'est en effet pas possible de séparer chez lui l'exercice médical de l'écriture. Là où on cherche le médecin, par exemple en lisant la thèse de doctorat en médecine, on tombe sur l'écrivain. Tout comme il n'est guère possible de s'intéresser à l'écrivain sans rencontrer le médecin. Toute la vie et l'œuvre de l'homme sont placées sous l'égide d'une mise en tension de la littérature et de la médecine, et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler. C'est aussi pourquoi parler de Céline et de la médecine, et je dis bien Céline, je ne dis pas Louis des Touches, ne peut se faire de façon pertinente si l'on ne prend pas en considération le filtre de la littérature. Comme le suggère encore le titre de cette table ronde empruntée à Stevenson, Docteur des Touches et Mister Céline, Céline n'est pas seulement le créateur, aussi réprouvé que classique, d'une œuvre littéraire éminemment problématique, il désigne aussi la créature engendrée par la production de cette œuvre. Or, c'est à cette dernière que nous avons affaire dans l'interrogation du rapport de Céline à la médecine. Aussi, comme dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, est-ce à travers la saisie du rapport de la créature à son créateur, mais également à celle de leurs interactions réciproques, que nous pouvons comprendre la relation de la créature Mr. Céline à la médecine. Cette dernière ne prétend usurper l'identité de son maître, présenté comme un simple médecin de dispensaire ou de banlieue, que pour mieux asseoir son statut, son identité d'écrivain hors norme. Cela est sensible dès la réception critique de Voyage au bout de la nuit, et on a foison de citations, d'extraits d'interviews où on dit « celui-là n'est pas médecin, celui-là n'est pas écrivain, pardon, il est juste médecin », et avec toujours des phrases négatives pour parler de la littérature, « il n'est pas écrivain, il ne fait pas de la littérature, il n'est pas verbeux », et toujours des phrases positives pour dire « il est médecin, il exerce en dispensaire, il s'intéresse aux pauvres, il n'a pas eu le temps de bien recevoir le journaliste parce qu'il était en train de consulter, etc. etc. » Et puis ça, ça va jusqu'à sa mort, où il va un petit peu modifier son discours, puisque la médecine générale est un peu moins à la mode au début des années 60. Et là, il va du coup endosser une identité de spécialiste et il va dire que son désir était d'être psychiatre. C'est dire encore que les représentations que nous nous faisons de la médecine et de sa place dans le parcours de l'écrivain à partir de son œuvre, de ses déclarations publiques, de sa correspondance, sont d'abord l'effet d'une construction issue des interactions constantes entre la créature et son créateur. Tout le rapport de Céline à la médecine, tel que nous y avons accès par les documents accessibles, relève en priorité d'une posture littéraire. Mais comme dans le roman de Stevenson, cette construction agit en retour sur le créateur dont elle modifie le parcours. On observe ainsi un mouvement d'enveloppement réciproque et paradoxal, où, ainsi que l'écrit Dominique Magnot dans le discours littéraire et qui a proposé le concept de paratopie pour désigner ce mouvement d'enveloppement réciproque et paradoxal, la vie de l'écrivain apparaît dans l'ombre de l'écriture, ou si on veut, la vie du créateur dans l'ombre de celle de la créature, mais l'écriture est aussi une forme de vie. Penser la place de la médecine dans la vie et l'œuvre de Céline ne peut donc pas s'envisager séparément de la place de la littérature dans sa vie et son œuvre. Hein, ne serait-ce que parce qu'exception faite de quelques documents de l'archive, comme par exemple les notes qu'il a pu avoir aux examens de la faculté, son rapport à la médecine ne nous est connu qu'à travers ses déclarations, ses écrits, qu'ils soient romanesques ou non, et puis les témoignages de ses relations plus ou moins intimes, mais qui la plupart se sont exprimés à partir du moment où il est devenu Céline, l'auteur de Voyage au bout de la nuit. C'est d'ailleurs pourquoi François Balta, qui avait rédigé à la fin des années 70 une thèse de doctorat en médecine sur le parcours médical de Louis Destouches, donc il disait « Je ne m'intéresse qu'à la seule réalité biographique de Louis Destouches », invitait le lecteur à se méfier de ce qu'il appelait les biomythographies de l'écrivain. Et comme François Gibault a pu vous le dire tout à l'heure, on peut dire que chez Céline, tout est faux et tout est vrai. C'est ça la question de la... Je dirais, c'est ça ce que Henri Godard appelle transposition dans la poétique de Céline. Alors, je vais peut-être quand même aborder un peu le parcours biographique de Céline, mais très succinctement, puisqu'il a été fait de manière assez détaillée par Gaël Richard. Mais je dirais que je me place d'un point de vue différent, puisque d'abord je ne suis pas historienne, je ne suis pas biographe, et je mets comme postulat de départ, c'est-à-dire je prends acte de ce qu'avec Docteur Destouches et Mister Céline, on ne quitte pas le domaine du roman, qu'il s'agisse de ce qu'on raconte ou qu'on se raconte à soi-même et de ce qu'on écrit pour les autres. C'est donc à partir de cette particularité qu'il a su transformer en création aboutie, que je vais aborder le parcours biographique. Alors, tout commence, on le sait, pour Céline. Alors, on dit d'habitude qu'il est rentré en médecine par l'hygiène, hein, avec la fameuse mission Rockefeller dont il vous a été parlé tout à l'heure. En fait, le parcours de Céline, qu'il soit médical ou littéraire, il est placé sous le signe de cette, je vais dire, qualité au sens neutre du terme, parce que c'est peut-être un défaut pour certains, symptômes, pour d'autres, quelque chose aussi qui entache la morale de la personne, c'est-à-dire un talent histrionique, une faconde, un bagout, un talent de battleur. Et ce sont ces particularités-là de l'homme, eh bien, qui lui ont ouvert les portes de la mission Rockefeller, parce que cette activité de prévention de la tuberculose à laquelle s'était assignée la mission Rockefeller, eh bien, Céline, donc, qui s'appelle encore Louis Destouches, y est admis par la porte du sixième bureau. Et le sixième bureau, c'est la division propagande et publicité de la mission Rockefeller. Donc on cherche des gens qui sont capables de faire de la propagande, qui sont capables de faire de la publicité. Et effectivement, l'activité qui est demandée à ces personnages qu'on appelle des délégués courriers consiste à faire quelques causeries prophylactiques, mais aussi à visiter les écoles, les usines, à chanter des chansons résolument antituberculeuses, écrit François Balta, à distribuer des brochures et des images, et puis aussi des conseils d'hygiène, en quelque sorte. C'est presque un intermittent du spectacle qui rentre à la mission Rockefeller, de la Fondation Rockefeller. Alors ça, c'est le premier point sur lequel je veux insister, parce que c'est évidemment très important pour se faire un peu une idée de ce qui va ouvrir ce personnage à la médecine et à la littérature, puisqu'on sait qu'en même temps, alors puisqu'il va commencer son activité en mars 1918, je crois, et on sait qu'effectivement, en février 1918, un mois avant, il publie une traduction dans la revue Eureka, dirigée par Raoul Marquis. Et puis, Jean-Pierre Dauphin dit même qu'il aurait envoyé un manuscrit en lecture de nouvelles à un journal l'année d'avant. Donc, tout fonctionne toujours, un article, une activité médicale au sens le plus large du terme, et s'accompagne, puisque souvent, d'ailleurs, les écrits, on le verra, sont... des justifications de son activité professionnelle. Alors ça, c'est le premier point. Je regarde un petit peu le temps parce que ça passe très très vite. Donc on sait effectivement que tout est allé très très vite pour lui, puisque à peine 8 jours après avoir commencé, il rencontre déjà Athanase Felé, puisqu'il avait demandé effectivement que le coup d'envoi de la mission soit donné à Rennes. Et les deux hommes se sont plus immédiatement. Il faut dire que Louis Destouches avait des atouts, le principal étant que puisqu'il avait un oncle secrétaire à la faculté de médecine de Paris et que la faculté de médecine de Rennes était sous la dépendance administrative de, enfin l'école de médecine de Rennes était sous la dépendance administrative de la faculté de médecine de Paris, et comme le directeur de l'école de médecine de Rennes va avoir l'idée fort opportune de mourir dans les mois qui suivent, grâce à ce piston, Athanase Felé va se voir nommé, contre l'avis de tous ses collègues, directeur de l'école de médecine. Il y a un texte dans les archives, une manifestation de protestation très aiguë, puisqu'on lui reproche d'être entré dans la maison par la porte des intrigues personnelles et des plus tristes compromissions, et on lui demande officiellement de démissionner en disant « Si vous avez encore le moindre sentiment de dignité, donnez maintenant votre démission, monsieur ». Et Athanase Felé se contente de répondre qu'il va classer le document aux archives ainsi qu'il lui a été demandé. Alors, vous voyez que ces deux hommes avaient de quoi sympathiser, se comprendre, se connaître. Donc, on sait comment ça se passe. Très vite, Louis Destouches plutôt s'installe au foyer du docteur Felé. Il prépare ses deux bacs. Il passe le PCN, qui est l'examen d'année préparatoire à la faculté de médecine, en 1919. Et il se marie en 1920. Et il commence la médecine en même temps. Il va faire les 3 premiers examens en 2 ans et demi. Il aura mention bien partout, sauf dans l'épreuve d'anatomie du premier examen, où il a mention assez bien. Il y commence des activités de recherche tout à fait fantaisistes, où on dit qu'il est caractérisé effectivement par une méthode intuitivo-alchimique, et assez éloignée de la méthode expérimentale de Claude Bernard. Et quelqu'un qui s'appelle Yves Milon et qui a été doyen honoraire de Rennes, de la faculté des sciences de Rennes, dit que ses expériences étaient souvent fantaisistes et qu'il versait indifféremment de l'urée ou sa propre urine dans les bases d'expérimentation. Tout ça pour vous donner une idée du personnage. Il a eu de multiples activités, mais en faire un chercheur méticuleux, quelqu'un qui a des connaissances précises, une méthodologie rigoureuse, est complètement fantaisiste. Alors, je vais aller un peu plus vite, sinon je ne pourrais pas vous parler du reste, pour vous dire qu'on arrive très vite à la thèse de médecine, qui va être soutenue en 1924. Avant, il a passé ses cliniques. Alors, les cliniques, il y avait une clinique de médecine interne, une clinique de médecine externe et une clinique d'obstétrique. On devait les passer dans un certain ordre. On ne sait pas pourquoi il arrive à les passer dans un ordre différent, c'est-à-dire à passer en dernier celle dans laquelle il est le moins bon et qui est l'obstétrique, à laquelle il aura juste la mention passable, mais il pourra quand même aller en soutenance de thèse. Ce qui veut dire qu'il a été constamment soutenu, constamment protégé. Et d'ailleurs, dans le jury de sa soutenance de thèse, on retrouve Athanase Felé, on retrouve le professeur Brindeau chez qui il a été en stage, on retrouve un chef de clinique donc avec qui il a dû faire des stages, et on retrouve Selskar Gün, qui était le médecin chef de la fameuse division propagande et publicité de la mission Rockefeller. Et c'est ce même Selskar Gün qui va le pistonner pour lui permettre d'entrer tout aussi vite à la Société des Nations, puisqu'il va soutenir sa thèse en mai. Et dès le mois de juin, il sera embauché le 29 juin avec pour critère un article soumis à publication, un seul article qui est un résumé de sa thèse, avec un concours de médecine sanitaire et maritime qu'il a passé du 23 au 25 juin. Donc vous voyez, il est embauché le 29. Il passe le concours du 23 au 25 juin pour avoir un titre d'hygiéniste. Et il a une lettre de recommandation de Selskar Gün qui est très importante, parce que non seulement c'est un contact pour le lien avec Ludwig Rassmann, mais c'est aussi un contact actif, puisque c'est la fondation Rothschild qui va payer son salaire, puisqu'elle participe au financement de certaines sections de la Société des Nations. Donc l'éminent hygiéniste, l'expert dont on parle, c'est en fait un second couteau, un employé qui entrait par la
la porte de toutes les protections et qui va être formé à l'écriture administrative, mais peut-être pas, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y a été formé par Raoul Marquis lors de son séjour lors de ses activités dans le cadre de la revue Eureka. Et d'ailleurs, quand on lit les notes, parce qu'on ne trouve même pas de rapport, les rapports n'existent pas, il les a jamais rédigés. Donc quand on trouve les notes de recherche pour les beaux voyages qu'il va pouvoir faire tout frais payés dans le cadre de ses fonctions à la Société des Nations, on trouve toujours un style très vivant, marqué par une grande désinvolture, un mépris souverain des statistiques et une vision toute personnelle de la réalité à laquelle il est confronté. Alors, tout ça pour dire que si on veut parler de ces lignes hygiénistes, eh bien, on peut par exemple procéder en prenant le cahier Céline 3, pour ceux qui y ont encore accès, où toutes les publications ont été répertoriées et publiées, et où on voit bien, d'une part, qu'elles sont toujours effectivement liées à la nécessité de justifier un séjour aux États-Unis, de rendre des comptes en quelque sorte, de justifier et ses déplacements et ses émoluments, et puis toujours fait de la manière la plus succincte qu'il soit. Et puis aussi, on voit aussi qu'on y trouve une matière première qui va être transposée dans les romans, et bien évidemment les notes de sa visite aux usines Ford lors du séjour aux États-Unis sera réécrite dans une version beaucoup moins académique pour Voyage au bout de la nuit, et surtout en inversant le point de vue, puisqu'il rend compte de sa visite et qu'il doit remercier ses hôtes de leur bon accueil. Il explique comment il existe un fonctionnement rationnel de la pratique médicale dans les usines Ford, où on ne connaît pas le chômage, en quelque sorte, ni la maladie, puisqu'on trouve toujours un emploi pour les employés qui sont blessés ou malades. On dit même que dans le pire des cas, comme leurs tâches sont tellement simples, tellement automatisées, il n'y ait pas ni une compagne, ni un enfant qui ne peut assurer le remplacement de l'ouvrier malade pendant la journée, et que c'est donc une conception extrêmement rationnelle de la pratique professionnelle. Alors que dans Voyage au bout de la nuit, on a une vision qui est beaucoup plus une attaque de la médecine, et où on a une vision anthropomorphisée des machines. Donc ce ne sont pas les êtres humains qui sont abrutis par la technique, ou plutôt ils le sont tellement que les machines sont devenues humaines. Alors, je passe sur tout ça pour en venir peut-être à d'autres références. Combien de temps il me reste ?
Il vous reste encore un bon quart d'heure.
Un bon quart d'heure. Alors, ce qui m'a le plus intéressé de par ma pratique, ce sont les références à la psychiatrie et à la psychanalyse dans l'œuvre de Céline. Alors, les références à Freud, elles sont bien connues. Vous avez accès à la plupart d'entre elles dans la notice et les notes de l'édition de la Pléiade établie par Henri Godard, qui montre que dans Voyage au bout de la nuit, on pourrait surtout trouver une trace de deux articles qui sont les considérations actuelles sur la guerre et la mort, et puis l'article sur la pulsion de mort qui ont été regroupés dans les essais de psychanalyse qui ont été publiés en France en traduction française en 1927. Je vous rappelle que Voyage au bout de la nuit est paru en 1932. Et puis avec l'idée qu'il se serait aussi intéressé à la question du masochisme, et qu'il y a effectivement un autre article qui est pour une économie du masochisme qui paraît, je crois, en 1928. Maintenant, on sait qu'il y a déjà des allusions à l'attrait pour la mort, à toute cette dimension-là dans la thèse sur Semmelweis, qui est de 24, donc qui est bien antérieure à la publication de ces traductions de Freud en français. Et puis aussi l'idée de Henri Godard, c'était que peut-être l'intérêt pour les rêves ne se serait manifesté qu'à propos de mort à crédit. Alors, moi, je pense que les choses sont peut-être un peu différentes, parce qu'il y a d'abord des références très explicites à la question à l'interprétation des rêves, qui à l'époque a été publiée sous le nom de La science des rêves, et l'année de la publication, c'est 1926, puisque je vous rappelle que Bariton, dans un morceau de bravoure, c'est le psychiatre de la clinique de Vicigny-sur-Seine de Voyage au bout de la nuit, s'exclame « Possédé, vicieux, captieux et retors, ses favoris de la psychiatrie récente, entendez la psychanalyse, à coup d'analyse superconsciente, nous précipitent aux abîmes. tout simplement aux abîmes. D'ailleurs, on dirait déjà qu'ils y sont enfermés, ces super malins, dans la cave aux damnés, à force de se masturber la jugeote jour après nuit. Je dis bien jour et nuit, parce que vous savez, Ferdinand, qu'ils n'arrêtent même plus la nuit de se forniquer à longueur de rêve, ces salauds-là. Donc, si ça, ce n'est pas une allusion à l'interprétation des rêves, on ne peut plus faire de critique génétique. Bon, alors, par ailleurs, il y a évidemment beaucoup de références à la notion, le mot rêve apparaît très souvent dans Voyage au bout de la nuit, mais aussi des occurrences dérivées comme rêver, rêvasser, rêveur, rêveuse, etc. Bon, je passe. Ce qui pose problème, en fait, et toujours problème, je crois, c'est que on dit bien que le roman le plus analytique de Céline, c'est Mort à crédit, que d'ailleurs dans la correspondance Céline dit qu'il y a mis le paquet, que les psychanalystes vont être contents, que s'il faut dire mettre du caca partout et être, alors il ne dit pas en plein Oedipe, mais bon, c'est sous-entendu, tout le monde sera servi et que lui, ce qu'il veut, c'est vendre un maximum de livres, donc il ne va pas lésiner sur la quantité. Donc tout ça ne pose pas question. Ce qui pose question, en fait, c'est que Mort à crédit précède de très près la publication de Bagatelle pour un massacre, et que dans Bagatelle pour un massacre, Céline retourne, on va dire, sa veste contre la psychanalyse, et que donc les gens ne sont pas d'accord sur, finalement, à quel moment Céline a commencé à s'intéresser à la psychanalyse et à quel moment a-t-il commencé à s'en désintéresser. Alors, à quel moment a-t-il commencé à s'en intéresser? Moi, je n'ai pas de réponse d'historienne, mais je vais dire, à partir du moment où il a commencé à fréquenter des psychanalystes et il s'est fait payer des voyages à Vienne, à Berlin, etc. On sait qu'il a connu Annie Angel, qui elle-même était amie avec Annie Reich, la première épouse de Wilhelm Reich. Donc, voilà, on sait au moins qu'il y a cette époque-là. Puis on sait aussi qu'il s'y intéressait au moment de la parution de Voyage au bout de la nuit, puisqu'il a été publié chez De Noël et Style, qui était l'éditeur de Marie Bonaparte, qui a publié sa vie et son œuvre d'Edgar Poe en 1931, donc juste un an avant, qui a publié Allende, que Céline a recommandé la lecture de Allende à une de ses amies, etc., etc. Donc ça, on sait qu'il y a une imprégnation qui est effectivement, on va dire, entre les années 25 et 35. Après, le désintérêt, je ne sais pas non plus ce qu'il en est. Je sais ce que Henri Godard en dit, qui est que finalement, il pense que c'est au moment de la parution de Mort à crédit où quand il essaie d'obtenir le soutien de Léon Daudet, qui avait écrit un fort bel article au moment de la parution de Voyage au bout de la nuit et ne se mouille pas du tout pour la publication de Mort à crédit, il lui écrit une lettre assez plate et assez rampante, et où il lui dit qu'il écrit dans la formule rêve éveillé. Or, Léon Daudet a publié effectivement un livre qui s'appelle Le rêve éveillé, hein, voilà, peu de temps auparavant. Sauf que, et ça me paraît peut-être intéressant pour qu'on y consacre une minute ou deux, eh bien, la question du rêve éveillé, si elle apparaît effectivement, si c'est le titre d'un livre de Daudet qui a été publié chez Grasset en 1926, c'est aussi le titre d'un article de Freud qui s'appelle « La création littéraire et le rêve éveillé » et qui a été publié dans les essais de psychanalyse appliquée, qui ont été traduits en français en 1933, donc effectivement avant Mort à crédit. Et Freud, bien, c'est là où les choses se compliquent. Certes, comme Léon Daudet le fait, entend par rêve éveillé, on va dire, l'activité fantasmatique entendue comme rêverie diurne, mais, d'abord, il n'en parle pas seulement dans cet article, il en parle aussi bien avant dans l'interprétation des rêves, où il parle du rêve éveillé, que là, il ne va pas rapprocher de la création littéraire, parce que c'est ça l'axe de Freud. Pourquoi il parle du rêve éveillé? Il dit, la création littéraire, c'est proche du rêve éveillé. Et ça, il le dit dans cet article qui est traduit en français en 1933. Mais bien avant, il rapproche quand même le rêve éveillé du rêve, tout simplement, hein, c'est du rêve nocturne. Et il emprunte, pour étayer sa description, un exemple, devinez à qui, à Alphonse Daudet, et à un roman qui s'appelle « Le Nabab ». Alors, ça va très loin, puisque la description esquissée par Alphonse Daudet dans le Nabab, des rêves diurnes, d'une figure marginale du roman, donc je ne la donnerai pas dans le détail, mais donc Freud n'en parle pas beaucoup non plus, puisqu'il dit qu'elle est connue de tous. C'était un grand lecteur d'Alphonse Daudet, qu'il admirait beaucoup, et dont on peut penser qu'il l'a côtoyé, sinon connu intimement, lorsqu'il était invité dans les années 85 chez Charcot, aux soirées de Charcot, puisque vous savez qu'il a fait un stage de 6 mois à la Salpêtrière, et qu'il a été invité à quelques soirées dans l'hôtel particulier de Charcot, et que là, il a forcément croisé Alphonse Daudet. Alors, et ce qui est encore plus amusant, hein, c'est que cette figure marginale du roman connu de tous, dont parle Alphonse Daudet dans Le Nabab, il l'a appelé Monsieur Joyeuse. Alors, si vous voyez qu'entre Freud et Joyeux, on est dans la même famille. Voilà, je vous cite donc Freud. Lorsque le Monsieur Joyeuse de Daudet erre désœuvré dans les rues de Paris, pendant que ses filles croient forcément qu'il a un emploi et qu'il est à son bureau, il rêve également au présent, et c'est le côté actuel de cette rêverie qui est marquant pour Freud dans Le rêve éveillé, il rêve également aux circonstances qui doivent l'aider à obtenir une protection et un emploi. Le rêve utilise donc le présent de la même manière et avec le même droit que le rêve d'Ion. Donc vous voyez qu'avec le personnage de Monsieur Joyeuse, la boucle est bouclée, et qu'on voit ici toutes les limites de l'approche génétique. Donc Le rêve éveillé, eh bien, c'est peut-être chez Alphonse Daudet qu'il faut en trouver l'origine, que ça inspirait son fils Léon Daudet, et puis que ça inspirait un jeune stagiaire étranger à l'hôpital de la Salpêtrière nommé Sigmund Freud. Alors, Charcot, je ne vais pas vous en parler, pour vous dire juste que c'est effectivement à partir de Léon Daudet qu'il faut penser la référence à Charcot dans l'œuvre de Céline. Bon, il y a des mentions de Charcot dans les romans de Céline, mais ma thèse, c'est que Céline, qui est écrivain avant que d'être médecin, s'est assignée pour projet, en écrivant Voyage au bout de la nuit, de réécrire Les Morticoles, qui avait été un roman à clé. Donc, vous savez que c'est un roman à clé qui parle de justement cette médecine de la Salpêtrière à la grande époque où Charcot hypnotise les hystériques. Et que c'est un roman donc un peu polémique, un peu scandaleux, et que Céline s'est fixée pour ambition de réécrire Les Morticoles. D'ailleurs, là, on pourrait dire que le meilleur argument que je pourrais donner pour étayer très rapidement et succinctement cette thèse, c'est que Léon Daudet, quand il fait son compte-rendu de Voyage au bout de la nuit, il parle des Morticoles. Il écrit « Lorsque parurent les Morticoles en 1894, c'est-à-dire l'année de la naissance de Céline, avec le succès inattendu que l'on sait, beaucoup de camarades m'écrivirent, me reprochant non la vivacité de mes peintures, mais au contraire mon excessive indulgence pour les mandarins de la faculté en général et le professeur Charcot en particulier. » Alors, ce qu'il va écrire, c'est, pour rapprocher son livre de celui de Céline, c'est « Ceux qui n'ont pas fréquenté les hôpitaux, étudiants, surveillants, infirmières, infirmiers ne connaissent pas les abîmes physiques et moraux de la misère, de la gêne, de la prostitution et aussi de l'honneur et de la dignité, assaillis par le manque d'argent, le froid. J'ai connu cela avant d'écrire Les Morticoles, où je m'en prenais surtout aux mandarins, professeurs de faculté tyranniques. » Donc, Voyage au bout de la nuit a un antécédent, et cet antécédent, c'est Les Morticoles. Alors, Dupré, c'est une référence majeure. Céline en parle beaucoup. Il est cité par Bétombe dans Voyage au bout de la nuit, qui en fait un maître. Il en parle aussi dans Nord. Il invente même un frère psychiatre à Göring en disant que ce frère psychiatre a été stagiaire chez Dupré. Donc, c'est vous dire que c'est une référence importante. Ernest Dupré, il en parle aussi dans La Correspondance. D'ailleurs, dans une lettre en possession d'Éric Mazet, il raconte « J'ai eu autrefois un vieux maître psychiatre, Dupré, dont la seule joie clinique était de relever dans tout le fatras du délire d'un maniaque un linéament de logique. » On peut penser que c'est tout à fait faux, que Céline n'a jamais eu Dupré pour maître, puisqu'on sait que Dupré a cessé toute activité professionnelle en 1919 et que Céline a commencé sa médecine en 1920. En revanche, Dupré était une espèce de personnage un peu people, puisqu'il avait fait la une des journaux comme expert dans une affaire criminelle bien connue, qui était le crime Soleillant, qui est un crime de pervers, donc d'assassin de petites filles, et il l'avait érigé en type pour parler justement de ces pervers. Alors, On insiste sur Dupré, c'est que Dupré, c'est le monsieur qui, en 1905, a inventé la notion de mythomanie. C'est lui qui a fait de la mythomanie un concept médical. Et évidemment, tout cela avait de quoi beaucoup fasciner le personnage Louis Destouches, Céline, qui aurait pu être un cas clinique intéressant pour le psychiatre. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que il y a une autre rencontre, sans doute plus sérieuse, de Louis Destouches, Céline, avec Ernest Dupré. C'est la publication en 1925 chez Payot d'un recueil des principaux articles de Dupré sous le titre « Pathologie de l'imagination et de l'émotivité ». Donc on y trouve effectivement l'article Princeps sur la mythomanie, un autre article, l'article sur le choc émotif, il fera beaucoup allusion au choc émotif, notamment dans Nord, l'article sur vous savez, les auto-accusateurs, et vous vous souvenez qu'il y a des personnages comme ça dans Nord, notamment le Vigan qui s'auto-accuse de crimes qu'il n'a pas commis, Ich bin der Mörderer, et l'autre lui dit « Mais non, il n'a rien fait, l'écoutez pas, c'est un menteur ». Donc tout ça s'est emprunté à l'œuvre de Dupré. Et puis bien sûr, Dupré, c'est aussi quelqu'un qui a été très controversé pour avoir développé le tableau du perversion instinctive, faisant du pervers un instinctif, un personnage inéducable, inamendable, qui correspond un peu à nos psychopathes d'aujourd'hui. Et évidemment, on peut penser que dans Nord, il y a beaucoup de références à cette notion de la perversion instinctive. Alors, je vais terminer sur une idée qui me paraît très importante, c'est que Charcot, Dupré, Freud, il y a des références culturelles réelles, il y a des références qui passent par le biais de la littérature, comme le roman de Léon Daudet. Surtout, ce sont des références intriquées. Céline, c'est un peu quelqu'un qui fait de la cuisine avec les restes du frigo. Il se sert, il prend un petit peu de psychanalyse quand ça l'intéresse, un petit peu de psychiatrie quand ça lui vient à l'esprit, quelque chose qu'il a entendu dans le journal la veille, et puis une rencontre qu'il a faite. Donc, les perspectives psychanalytiques et psychiatriques ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Ainsi, dans le roman, pas plus qu'il n'est fait d'allusion explicite aux théories de Dupré sur le choc émotif, Céline ne propose une description freudienne qui n'existe pas de la névrose de guerre, hein, puisque ça a été aussi un grand débat, ne s'excluant nullement nul l'autre. Ces deux approches semblent donc revendiquées au même titre. Cette partie du roman n'en doit pas moins être lue comme la satire d'un certain discours psychiatrique. Là, je parle de l'épisode de Voyage au bout de la nuit consacré au séjour dans les hôpitaux militaires avec le professeur Bétombe, celui des médecins militaires tout imprégnés de la théorie de la simulation dans l'hystérie. Parce que si Charcot a hypnotisé les hystériques, son élève Babinski a démembré l'approche de l'hystérie proposée par Charcot en disant que finalement, on n'avait pas tellement besoin de l'hypnose pour faire apparaître les symptômes, que Bernheim avait raison, c'est lui qui a gagné, le médecin de Nancy, que la suggestion suffisait. Et donc, Babinski a proposé le concept de pitiatisme pour décrire les troubles hystériques comme des troubles qu'il était possible de suggérer et que l'on pouvait guérir par la persuasion. Et du coup, les médecins militaires, quand ils ont été confrontés à des tas de symptômes d'allure hystérique ou simulés pendant la guerre 14-18, justement, se sont dit on va faire le tri entre les vrais névrosés et ceux qui imitent les symptômes pour ne pas retourner au front. Et donc, pour ça, on va les surveiller jusqu'à ce qu'on puisse les prendre en défaut. Et toutes ces choses-là sont mises en écrit dans Voyage au bout de la nuit. Je vous invite à relire le roman. Donc, ce qu'on peut dire, c'est aussi que Céline ne fait que réécrire avec les arguments de son époque, ceux de la question de la simulation, de la bataille de l'hystérie pendant la guerre 14, l'histoire d'un autre débat d'idées qui a été dérivé de l'hystérie et qui était celui de l'hypnose à laquelle Charcot, pour lequel Charcot a laissé son nom, et dont la représentation satirique a alimenté le succès des Morticoles. Donc, le lecteur initié est invité à découvrir une référence aux travaux de Charcot derrière l'allusion à ceux de Dupré et à comparer le personnage de Béton, bah, celui de Foutange, qui est le pseudonyme, enfin le prête-nom de Charcot dans le roman de Léon Daudet. La référence satirique de Voyage au bout de la nuit à la clinique de l'hystérie joue donc de façon, puisqu'elle se réfère tout autant aux données du savoir psychiatrique qu'à celles du roman de Daudet. Céline moque Dupré alors que Daudet moquait Charcot. Ils raillent tous deux une certaine conception de la clinique de l'hystérie qui trouve son origine dans l'œuvre du maître de la Salpêtrière. Et en se mesurant à Léon Daudet, Céline ne perd pas tant un choix idéologique entre deux courants de pensée qu'il ne marque d'emblée le terrain qu'il compte occuper dans le champ littéraire. Il donne donc la dimension de son ambition et il défie le corps des institutions littéraires. Un cycle met par exemple aussi, et ce sera ma conclusion, l'épisode de Voyage au bout de la nuit consacré au docteur Bariton, le médecin aliéniste de la clinique de Vigny-sur-Seine. La psychiatrie constitue le lieu, ou plutôt le milieu, où cette mise en tension de la littérature et de la médecine peut être dialectisée. Ceci dans la mesure où c'est autour de la question de la vérité, c'est-à-dire aussi du mensonge et de l'illusion, mais je pourrais également dire de la parole dans sa dimension de pharmacon, inséparablement poison et remède, que passe chez Céline la ligne de partage non seulement entre la littérature et la médecine, mais entre la bonne et la mauvaise littérature. Et la bonne littérature, c'est celle qui est la plus proche de l'observation clinique, celle qui ressemble le plus à la question d'internat, et la mauvaise littérature, c'est tout le reste. C'est pour ça que Proust, qui est un fils de clinicien, est un bon écrivain, et que Léon Daudet, qui en est resté au pastiche, n'est pas si grand écrivain. Je cite de manière approximative Céline. La psychiatrie, dans la mesure où elle est inséparablement affaire de parole et de médecine, permet de soumettre à la question cette manie qu'ont tous les hommes, de leur naissance jusqu'à leur mort, de créer, de raconter des histoires. Là, je cite un extrait, l'extrait d'une réponse de Céline à une enquête de la Commune qui était « Pour qui écrivez-vous ?» Donc, cette manie de raconter des histoires est pour lui la seule véritable question. Cette réponse, on le sait, sera lu par Aragon comme une dérobade et interprété, et je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort, comme un refus de s'engager clairement à gauche. Quoi qu'il en soit, elle permet d'entrer au cœur de la problématique du romancier, pour qui l'identification de la vérité à la mort permet d'opposer aux tricheries de la littérature ses mensonges, ses ruses, sa métisse, la réalité de la souffrance qui, elle, parce qu'elle ne se paie pas de mots, ne ment jamais et empêche de tricher. Ainsi, ce n'est pas par génie que le personnage de l'écrivain hospitalisé à la clinique de Vigny-sur-Seine ne cesse de hurler « On liquide, on liquide ». C'est parce qu'il souffre d'une rétention aiguë d'urine provoquée par un rétrécissement de l'urètre. Il y a urgence à le sonder, verbe bien ambigu, vous me l'accorderez, et non pas à le psychanalyser, sauf que, pour pouvoir en décider, il faut d'abord être attentif à son discours, savoir le prendre au pied de la lettre et ne pas plaquer dessus une interprétation arbitraire. Dans cette perspective, la psychanalyse à travers la place qu'elle accorde au rêve, mieux depuis l'étude de la gradiva de Jensen par Freud au délire et au rêve des romanciers, apparaît comme une sorte de version intensive d'une psychiatrie minée dans sa dimension médicale par la puissance poétique et pragmatique du discours, lequel en fait vaciller tous les repères les plus assurés. Au fantasme de la transparence du discours qui fonde la pratique du docteur Bariton dans Le Voyage, la psychanalyse, à l'identique de la poésie élisabéthaine qu'il découvre en apprenant l'anglais, substitue l'irrémédiable opacité d'une parole toujours polysémique et en cela productrice de pensées, mais aussi dont l'efficace pragmatique apparaît singulièrement déstabilisante, puisqu'il n'est pas de fait de parole sans effet de parole. Et ça, on pourrait dire, si vous résumez l'œuvre romanesque de Céline en une phrase, c'est ça. Il n'est pas de fait de parole sans effet de parole. Il y a une citation dans Voyage au bout de la nuit où il dit que les mots sont comme des petits cailloux, on ne se méfie pas, et puis un jour, il y a un accident qui arrive. C'est pourquoi la triangulation de la médecine et de la littérature par la psychiatrie-psychanalyse dessine dans l'œuvre de Céline un lieu où peut se nicher la poétique du délire revendiquée par l'auteur dès ses premiers entretiens publics. Et je vous remercie de votre patience. Voilà.
Merci Isabelle. Nous n'avons pas été patients, nous avons été passionnés, c'est tout à fait différent. Je regrette seulement que vous ayez eu si peu de temps pour évoquer ces problèmes absolument essentiels pour lesquels vous étiez particulièrement qualifié du fait des diplômes que vous avez obtenus et des activités que vous exercez. Je vous remercie, ça c'est un détail, d'avoir évoqué la personnalité du docteur Follet, dont Gaël Richard avait déjà parlé, qui est un personnage... pour moi, 100% célinien, professeur, médecin naturellement contesté, qui défrayait la chronique à Rennes par ses frasques que tout le monde connaissait. Il avait une maîtresse au vieux jeu de tout le monde. En fait, c'est un personnage très sympathique avec lequel, d'ailleurs, Céline s'est fort bien entendue, le docteur Follet ayant effectivement favorisé sa carrière de médecin. Et puis, je vous remercie aussi d'avoir rappelé que finalement, il n'y avait pas deux hommes chez Céline, il n'y avait pas un écrivain et un médecin. C'était un ensemble avec une influence constante de la médecine sur l'écriture. Ça, c'est une partie particulièrement intéressante de votre exposé, sans parler, bien entendu, de toutes les références à la psychiatrie et à la psychanalyse. Voilà pourquoi je vous remercie tout particulièrement. Alors maintenant, il nous reste quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, pour permettre à la salle de s'exprimer ou surtout de poser des questions. Emmanuel Payen est là avec un micro qu'elle transmettra à ceux qui veulent poser des questions. Donc la parole est à la salle.
Oui, alors malheureusement, il ne reste pas 10 minutes, mais moins de 5. Donc je vais vous demander, on va prendre une ou deux questions et puis bien entendu cet après-midi, à la fin de l'après-midi, on réservera également un temps pour que vous puissiez poser vos questions. Vous voulez parler ? Une question ?
Oui, bonjour, une question s'il vous plaît. Je pensais, Céline, des surréalistes et de l'influence des surréalistes dans les arts en général, que ce soit la peinture, la poésie, entre autres.
J'y réponds ? Vous répondez ?
Non. Moi, je n'ai pas vraiment de connaissances particulières. Je pense qu'il ne s'y intéressait pas beaucoup, mais vous allez en dire plus, peut-être.
Non, il ne s'y intéressait pas particulièrement. Voilà, moi, je pense que je peux vous dire. D'ailleurs, Céline ne s'est pas tellement intéressée ni aux écrivains de son temps, ni encore moins aux peintres, hein, et notamment les peintres. J'ai fait ici une communication il y a très longtemps sur Dubuffet et Céline, et je peux vous dire que Dubuffet n'intéressait absolument pas Céline, alors que Dubuffet était un passionné de Céline, hein, et Céline ne s'intéressait pas du tout à l'œuvre de Dubuffet. Il aimait en peinture, il aimait les grands classiques, c'est-à-dire les primitifs flamands qu'il allait voir, et il emmenait visiter les musées de Hollande, toutes ses maîtresses successives. Voilà ce que je peux vous dire. Mais y a, si vous voulez, il n'y a pas de référence, ni dans la vie particulière.
Hein, il s'est même moqué du surréalisme, et il en a fait un pastiche. Je ne me rappelle plus exactement où. En trois phrases, il les a liquidées.
Ben, je vous remercie. Une précision que je n'avais pas.
La dernière question, s'il vous plaît.
Oui, Claude Engli, je suis suisse, et c'est une question à Gaël Richard. Je me suis intéressé à la période genevoise de Céline, notamment la chanson des gardes suisses dans La Voyage au bout de la nuit. Et qu'est-ce qu'on sait sur les influences qu'aurait pu avoir Céline lorsqu'il était à Genève par les milieux suisses ? J'ai l'impression qu'il a vu la pièce tirée de Gonzague de Reynolds sur les gardes suisses, la Bérésina, le chant de la Bérésina. Est-ce qu'il y a peut-être, qu'est-ce qu'on connaît, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à chercher de ce côté-là?
Alors, je n'ai pas de réponse précise à apporter à votre question. Au niveau des sources et de la connaissance que nous avons de la période de Genève, il y existe un recueil magnifique de documents. C'est le dossier de fonctionnaire de Céline à la SDN qui a été publié par M. Dimitrov il y a quelques années. Alors, qui ne répondra pas directement à votre question. Après, bon, on a les traces dans la correspondance, hein, mais malheureusement, les lettres sont très très rares, hein, pour la période de 24 à 27. Vous avez pu le constater. Je crois même qu'Henri Godard a retenu la totalité des lettres pour cette période.
Bon, eh bien, je crois que pour ce matin, nos travaux sont terminés. Je vous rappelle que le colloque reprendra à 14h30 sous la présidence d'André Derval, qui sera d'ailleurs entouré d'un certain nombre d'universitaires qui viennent des quatre coins du monde, et que le sujet sera controverse et reconnaissance internationale. Voilà, à tout à l'heure.